BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On entame ensemble cette deuxième heure de BFM Patrimoine et avant de filer sur les marchés, toute l'actu éco avec Faiza Younzi.
BFM Business, l'info éco, Faiza Younzi.
Huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et c'est même ce matin que la commission mixte paritaire a démarré ses travaux à huis clos à l'Assemblée nationale. 14 députés et sénateurs vont tenter de trouver un compromis sur le texte en cas d'accord. Il sera soumis au vote à l'Assemblée et au Sénat demain. Côté syndicat, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, dénonce toujours une réforme qu'il juge injuste et brutale. Il était au micro de RMC BFM TV ce matin. Écoutez.
On a une réforme des retraites qui est... contrairement à ce qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire partant du travail et des réalités des travailleurs, a été sur une logique purement budgétaire pour résorber un déficit qui ne met pas en cause le système des retraites par répartition. C'est totalement contesté dans une mobilisation qui, en termes de géographie et de sociologie des manifestants et donc des électeurs, est extrêmement diverse et qui va avoir des conséquences en termes de ressentiment du monde du travail à l'égard de cette réforme et donc de ceux qui, quelque part, auront permis qu'elle se mette en place, qui va être profond. Je leur dis...
Grève massive aussi au Royaume-Uni avec cette mobilisation de fonctionnaires, de médecins hospitaliers, de conducteurs de métro, d'enseignants pour réclamer des augmentations de salaire. C'est l'une des plus importantes journées de mobilisation outre-Manche depuis des mois, justement le jour où le gouvernement britannique doit présenter son budget. Il a d'ailleurs décidé de prolonger pour 3 mois le plafond des prix de l'énergie pour les ménages. L'inflation révisée en hausse par l'INSEE, elle a atteint 6,3% sur un an en février en France. Elle a été tirée par l'envolée des prix des produits alimentaires. C'est désormais d'ailleurs le premier moteur de la hausse des prix devant l'énergie. Énorme commande pour Boeing en Arabie Saoudite. La compagnie historique Saoudia et la future Riyad Air ont signé un contrat pour 78 longs courriers 787 Dreamliner. C'est la 5e plus grosse commande de l'histoire de Boeing. Prix catalogue pas loin des 40 milliards de dollars. Inditex, maison mère de Sarah, a dégagé le plus gros bénéfice de son histoire en 2022 avec plus de 4 milliards d'euros. Un chiffre en hausse de 27% par rapport à 2021. Le leader mondial du prêt-à-porter fait même mieux qu'avant la crise sanitaire. Et on termine avec Wish qui fait son grand retour en France. La plateforme de vente en ligne est de nouveau accessible depuis les moteurs de recherche. Elle avait été déréférencée il y a 2 ans à la demande de Bercy après une enquête de la répression des fraudes qui avait pointé du doigt la vente de produits dangereux.
Merci beaucoup Faiza. Faiza Younzi, que l'on retrouve chaque heure pour suivre cette actualité économique. Nous tout de suite, direction les marchés actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on rejoint la salle de marché de Ports-en-Part où nous attend Nitin Kenda. Bonjour Nitin.
Bonjour Cédric.
Bon, quelle ambiance ce matin?
Ben, ça tranche avec la séance d'hier, hein, puisqu'on est clairement dans le rouge avec une baisse de 2,20% et des volumes qui sont quand même assez étoffés puisqu'on dépasse le 900 millions d'échanges alors qu'il est à peine, il est à peine 11 heures. Donc on le voit, un marché aujourd'hui qui prend des bénéfices. Sur le CAC 40, les valeurs qui sont les plus fortes baisses, c'est les bancaires. On est dans la même configuration que lorsque on avait l'annonce de faillite sur la SSB. Donc prise de profit après une journée qui était plutôt euphorique hier et avec des volumes qui sont assez étoffés.
Voilà donc le cadre dans lequel évolue ce marché. Après, il y a quelques titres qui se distinguent. D'abord, un mot de Bolloré, rapidement.
Oui, Bolloré, une OPAS sur à peu près 10% du capital avec un niveau de prix à 5,75 € avec le dividende attaché. Bon, la financière OD fait part de son intention de ne pas participer à l'opération, mais naturellement le titre prend des couleurs ce matin et de la hauteur puisque aujourd'hui, elle cote 5,52 € en hausse de 7,6%.
Voilà donc pour le cas Bolloré et donc cette OPA. Et puis quelques mid and small qui sont plus dans votre genre de beauté, on va dire, chez Ports-en-Part. Peut-être un petit mot de Mersen
qui fait une publication qui est globalement en ligne avec des éléments qui sont plutôt rassurants, hein, notamment sur 2023 avec une croissance organique entre 5 et 10% qui est super à nos attentes. Un plan moyen terme à 2027 avec un objectif de chiffre d'affaires 1,7 milliard. Là, nous, on était plutôt à 1,5 avec un niveau de marge conforme avec nos attentes. En revanche, on voit que cet objectif de moyen terme s'accompagne d'une enveloppe de CAPEX qui est un peu plus importante que prévu. Donc, entre 100 millions pour horizon 2023 et 300 millions jusqu'à 2027. 2025. Et la raison pour laquelle le titre corrige aujourd'hui, c'est puisque toutes les voies de financement sont envisagées, dont l'augmentation de capital, chose que nous, on intègre dans notre modèle aujourd'hui et qui nous a ramené un petit peu à changer notre opinion sur le dossier, puisque on est passé à conserver contre achat avec un target price qui est revu légèrement l'os à 48,6.
Et puis un petit mot pour finir de Lumibird.
Lumibird, aujourd'hui, la société fait une publication sur ses résultats qui sont en ligne avec les guidance qui avaient été, sur lesquels ils avaient fait un warning, fin de l'année dernière. En revanche, ce que le marché n'apprécie peut-être pas aujourd'hui, c'est une correction de la guidance d'EBITDA de la marge sur cette année, qui devait être entre 20 et 25%, et finalement un atterrissage entre 18 et 23%. Donc déjà, une grosse fourchette, et surtout, pas de véritable explication derrière cette correction sur cette marge. Nous, ce que l'on pense, c'est que la société est connue pour faire du build-up, faire des acquisitions. On peut penser que cette nouvelle guidance est liée à une acquisition qui serait plutôt dilutive sur les marges.
Merci beaucoup, Nitin Kedna, donc Ports-en-Part, qui nous accompagne chaque mercredi en début de cette deuxième heure pour prendre le pouls des marchés. Très bonne journée, Nitin, sur ces marchés. Le CAC 40 qui est en repli de 14% maintenant. On a cassé donc les 7000 points il y a une toute petite poignée de secondes, 6988 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé entre Ronan Blanc ce matin et Frédéric Rollin. Bonjour messieurs, merci d'être présents en plateau. Ronan pour Financière Arbovel, Frédéric pour Pictet AM. Bon, on va mettre d'abord les pieds dans le plat et puis après on verra. Est-ce qu'il y a un problème bancaire ?
Est-ce qu'il y a un problème bancaire ? Il y a un sujet aux États-Unis, clairement. C'est l'excès de crédit et d'argent pas cher. Ça a été quand même relativement réglé rapidement, avec une Fed, encore une fois, à la manœuvre. On verra comment on gérera l'aléa moral, le fameux aléa moral dans le futur. Mais en tout cas, ça met un petit peu plus de projecteurs sur le lien qui est toujours assez fort entre finalement la signature souveraine et le risque bancaire. C'est quelque chose qu'on a essayé de casser avec une réglementation qui est plus sévère en Europe. Donc on va dire, on peut pas importer directement cette problématique-là. Mais en Europe, on a un maillon faible qui s'appelle Crédit Suisse et qui aujourd'hui pose quand même pas mal de questions. Le risque sur la signature, les fameux CDS, donc la prime de crédit a jamais été aussi élevée. On est sur des niveaux de 550 points de base à 5 ans. Au pic de Lehman, on était à 250. Donc vous voyez le changement d'échelle. Donc il y a une pression sur les épaules de la Banque Centrale Suisse pour essayer de pousser à une solution. Honnêtement, il n'y en a pas 100 000. Hein. Il y a du bruit avec un rapprochement avec sa compatriote UBS. Est-ce que ça peut être vendu par compartiment ? Honnêtement, voilà, c'est un petit peu l'inconnu. Nous, on est assez peu exposés sur, que ce soit sur la partie crédit ou la partie action sur les signatures financières. Donc, pour l'instant, on reste un petit peu spectateur et conforté dans notre idée de privilégier plutôt les entreprises qui, elles, ont des bilans qui sont un petit peu plus lisibles et sur lesquels il y a surtout moins de levier en Europe. On paye le levier quand même aux États-Unis et on le paye un petit peu cher.
Ce matin, à Paris, encore, BNPP qui perd 8%, Soggen moins 8%. Bon, si on fait l'addition depuis quelques jours, là, les valeurs financières au sens le plus large, elles ont fait s'évaporer des milliards, des centaines de milliards de capitalisation boursière. On voit ce matin qu'il y a Moody's qui révèle dégrader la perspective pour le système bancaire américain de stable à négative. Enfin, il y a un problème bancaire ou pas?
Je pense Frédéric. Qu'il y a deux choses. D'abord, le bon côté, c'est de dire attention, SVB, cette fameuse banque donc qui a mis le feu aux poudres, oui, est un cas particulier. C'est une banque qui est spécialisée dans un secteur qui est particulièrement aujourd'hui difficile, qui est celui de la tech américaine non profitable, notamment avec des mises de capitaux sur des sociétés relativement naissantes. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui a eu quelques difficultés, notamment en 2022. Et puis en plus, il y a eu une gestion de son bilan absolument extraordinaire. C'est-à-dire que voilà, ils ont pris des risques, j'ai envie de dire,
notamment sur l'obligataire. Ouais.
Sur l'obligataire. Donc voilà, ils ont perdu beaucoup d'argent sur un pari, relativement inimaginable. On n'aurait pas pensé que quelqu'un puisse prendre autant de risques. Donc c'est une situation quand même qui est spécifique. Mais finalement, cette situation spécifique, elle révèle quelque chose. Elle révèle que, eh bien, les taux ont fortement monté. Donc la marée est descendue, hein, et qu'on risque de trouver de ci de là, eh bien,
quelques nageurs qui nagent nus, c'est ça, comme le veut l'expérience, l'expression,
ou quelques épaves, qui sont dans une situation finalement qui a été cachée par le flux de liquidité qui arrosait les économies et qui aujourd'hui se retrouve effectivement devant leurs responsabilités. Donc ça crée une défiance, en fait, hein, les taux remontent, ça crée une défiance sur le système bancaire. Aujourd'hui, on en est là. Il n'y a pas, pour nous aujourd'hui, d'autres histoires spécifiques qui s'annoncent. Mais les banques centrales peut-être vont devoir être un petit peu,
plus prudentes, quoi,
pour parler un peu au marché, quoi.
Et ça veut dire que le resserrement monétaire fonctionne.
Il y a encore quelques semaines. Merci. Oui, c'est sûr.
C'était un petit peu le plus au crime.
Oui, mais alors on va pousser le truc.
L'ennemi du bien.
On va pousser le truc un peu plus loin, Renan. C'est que effectivement, on est d'accord. Cette banque est spécifique, enfin, ou ces banques sont spécifiques, etc. Malgré tout, il y a cette défiance qui s'installe. On sait bien ce que ça va nous donner. Ça veut dire que les banques vont faire moins de crédit, a priori.
C'est déjà le cas.
Oui. Que donc les boîtes vont trouver moins de financement. Et voilà, je vous pousse pas le bout jusqu'à ce qu'il y ait une récession. Enfin, donc, c'est-à-dire que nos banques centrales, alors qu'elles nous avaient dessiné par la bouche de Jérôme Powell, c'était il y a à peine 8 jours, un truc bien tracé qui nous emmenait vers nos 50 points de base de plus, etc., etc. Aujourd'hui, la Fed, elle a un peu les fesses entre deux chaises, pour rester très poli.
Alors, moi, je ferai quand même une distinction entre la partie américaine sur laquelle les entreprises ont eu beaucoup de leviers, il y a eu beaucoup d'émissions de dettes ces dernières années pour financer des acquisitions, financer des dividendes exceptionnels. Donc, ce cash, quand il sort du bilan, c'est un matelas de sécurité en moins. En Europe, on a eu une crise auto-centrée en 2012 qui était la crise de la dette souveraine. Et du coup, tous les chefs d'entreprise en Europe ont plutôt un biais assez conservateur. Et donc, conserve des liquidités au bilan. Et si on prend le marché au rendement en Europe, on n'a jamais eu autant de liquidités. Ce qui veut dire qu'on a le temps de patienter. On n'a pas un coup près, un mur de dette qui nous obligerait finalement à se refinancer sur des taux usuriers et mettrait à mal la dynamique de croissance. Donc ça, c'est plutôt une chance, et c'est ce qui nous conforte plutôt dans l'idée que on est capable d'absorber ce type de choc. Alors, faut pas des chocs à répétition, mais en tout cas, on a une crise du siècle quasiment tous les 4 ans depuis 2008. Donc, il faut se rendre à l'évidence que les entreprises, elles doivent assurer la pérennité de leur business. Donc, quand elles sont quelque part hypersensibles aux risques bancaires, parce qu'elles savent trop en 2008 ce que ça leur a coûté. Donc voilà, elles ont diversifié leurs sources de financement, et aujourd'hui, pour runner le business en day-to-day, elles ont de quoi voir venir. Donc, en ça, on a maintenant cette capacité à absorber. Donc, si on a une récession technique, c'est peut-être encore un scénario qui est fortement probable en Europe. Nous, on n'a pas cru au scénario de reprise qu'on nous vendait il y a encore quelques semaines, parce qu'encore une fois, la politique monétaire, ça met du temps à mordre sur la dynamique de croissance. Bon, là, on s'est fait mordre à la cheville.
Cette espèce d'enchaînement qui inévitablement nous amènerait en récession, qui est un scénario qui, il y a encore à peine une semaine, et le CAC était à 7401 points, et on se réjouissait, les traders commençaient à nous parler des 8000, enfin...
Je pense que cette crise, elle est avant tout effectivement à minima récessive. Je dis pas récessive, c'est-à-dire ralentissement économique. C'est-à-dire que la Fed, son action, c'est quoi? C'est d'abord casser l'immobilier, avec une hausse des taux de mortgage, et puis faire baisser les actifs, créer un effet de richesse. Tout ça, ça ralentit. Mais le deuxième effet, qui peut être le plus important, c'est le ralentissement du crédit, qui n'était pas encore arrivé aux États-Unis, mais on avait des banques, on le voyait bien, qui disaient, je prête encore, mais demain, je prêterai moins. Et ils disaient, en plus, on a de moins en moins de demandes. Donc, on sentait bien que le crédit allait ralentir. Et l'idée d'accélération économique aux États-Unis, ou en fin d'année, assez solide, etc., nous, ça nous paraissait improbable. Je pense que cette crise-là va emmener les banques à encore plus de prudence, un peu plus rapidement. Personne aujourd'hui n'a envie d'exposer son bilan compte tenu de ce qui s'est passé. Et donc, ça va être ralentissement économique. Donc ça, c'est le premier point, mais je dirais, c'est une révision à la baisse de la croissance bénéficiaire qui, nous paraît saine. On est prudent depuis le début de l'année. Puis le deuxième risque, et c'est peut-être celui dont on parlera plus tard, c'est encore un peu tôt, c'est que la Banque Centrale Américaine se retrouve quand même de plus en plus dans une situation délicate, parce que l'inflation continue d'être là. N'oublions pas, donc l'inflation des biens, bon, c'est derrière nous, on est à 1%, très bien, ça va pas descendre tellement plus bas, et on a une inflation des loyers qui continue de monter, et une inflation des services qui finalement est relativement solide. Donc les chiffres d'inflation, bon, voilà, l'inflation risque de baisser un peu moins rapidement, alors que la Fed risque d'avoir besoin d'être un petit peu plus souple dans sa politique monétaire. Donc ça c'est propre potentiellement à inquiéter le marché. On n'en parle pas encore parce que pour l'instant on est sur l'idée des banques et du futur ralentissement.
Donc là le 22 mars, parce que bon, on va enjamber pour le moment la BCE, on y reviendra certainement, mais restons sur la rive américaine. Le 22 mars, la Fed nous avait dit 50 points de base. Enfin, nous avait pas dit 50 points de base, mais tout le monde avait compris 50 points de base. Aujourd'hui, vous vous dites quoi ? 0, 25, ou comme Nomura qui est le premier à sortir le chiffre, baisse de 25 points de base.
Alors
le 22
nous,
mars.
On n'a pas changé depuis le début. Quand Jérôme Powell a dit on va peut-être monter de 0,50, on envisage, on pensait que non, l'inflation, elle baisse doucement, mais elle va quand même baisser, donc il n'y a aucun besoin d'accélérer le reste.
Vous êtes resté sur 25 points de base.
Resté sur 0,25, et nous, on pense que les effets de contagion vont être très limités par les actions qu'a pris la Fed, et donc on reste sur 25 points de base, on n'a pas bougé.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette réunion du 22 mars ? 50, 25 ou moins 25 ?
Je suis un petit peu plus nuancé sur le rapport d'inflation qu'on a eu hier. Effectivement, sur la partie service et loyer fictif, puisqu'il s'agit d'une enquête, encore une fois, sur l'inflation. Nous, ce qu'on voit, c'est que des entreprises comme Zillow, qui sont l'équivalent de Se Loger aux États-Unis, qui ont des indices en temps réel de l'évolution des loyers, les loyers baissent depuis 6 mois. Donc, en fait, il y a toujours ce décalage entre la réalité et la stat. Et le problème, c'est que regarder juste les chiffres d'inflation et le taux de chômage, c'est un peu regarder dans les rétros. Donc, la dynamique de désinflation, c'est pas une ligne droite. On sait que ça va prendre du temps, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, je pense qu'il y a un petit peu moins de pression de ce côté-là, et tant mieux, parce que le timing laisse la porte ouverte à la Fed pour ne... Voilà, nous, on aime bien la politique du petit pas, on retrouve cette politique du petit pas, le fameux fine-tuning que les Américains aiment bien nous servir, donc plutôt confortable avec ce 0,25. Bon, Nomura qui envisage des baisses, pas oublier que c'est une banque japonaise qui a quand même été élevée à la baisse de taux, donc c'est des réflexes qui sont toujours un petit peu faciles à avoir, mais il faut de la cohérence, et aujourd'hui, on sait que la confiance, c'est le nerf de la guerre, donc... On a l'illustration quand même de ce réveil qui peut être un petit peu brutal sur cette montée du risque spécifique. Donc c'est aussi le rôle d'une banque centrale de montrer une certaine confiance en justement ne cédant pas aux sirènes du marché. Donc 0,25, ça serait sans doute la meilleure des solutions pour elle en tout cas.
Bon. Voilà donc pour l'aspect américain. Et puis, juste plus proche de nous, il y a la Banque Centrale Européenne qui, elle aussi, semblait avoir un chemin tout tracé. Et puis, cette inflation française, par exemple, ce matin, qui ressort plus forte que prévu, au plus haut depuis 85, je crois. Ça veut dire que la BCE, elle n'a pas le choix. Ça se complique, ça se corse un peu pour elle. Il faut qu'elle porte encore un peu plus le fer ?
Pour nous, ce qui se passe en Europe, c'est ce qui s'est passé auparavant aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui continue de monter, mais qui va bientôt baisser avec le ralentissement économique, c'est assez naturel, mais il faut que la BCE, qui est en retard aussi par rapport à la Banque Centrale Américaine, continue de resserrer sa politique monétaire. Donc voilà, on reste sur cette idée-là, la Banque Centrale continue de resserrer sa politique monétaire. Il y a une fragilité quand même en Europe par rapport aux États-Unis, c'est que l'inflation cœur, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, oui, on a fait la preuve, je dirais, que l'inflation baisse. Alors on a du retard, c'est un petit peu plus lent que prévu, plus durable, mais en tout cas elle baisse effectivement, l'inflation sous-jacente en Europe. Il faut faire la preuve qu'elle baisse, et je pense que peut-être les marchés peuvent devenir un petit peu plus nerveux sur ces chiffres-là. Donc voilà, mais en même temps on a l'exemple américain, donc on se dit comme ça s'est passé aux États-Unis il y a quelques temps, ça devrait se passer en Europe. Mais pour nous, la BCE doit continuer de resserrer sa politique monétaire, on a relativement peu de doutes là-dessus.
Comment vous voyez? Là, avec le micro, ce sera mieux. Comment voyez-vous les choses, Renan, sur cette Banque Centrale Européenne ?
Je suis assez d'accord. En fait, la difficulté de Christine Lagarde, c'est qu'elle cherche à tout prix le consensus avec des situations qui sont quand même très hétérogènes. Des pays qui ont des niveaux d'inflation structurellement plus élevés que les autres. Donc le 0,50, je pense que là encore, il est plutôt à valider. On a quand même moins de leviers. Encore une fois, le refroidissement de l'économie, il est réel, notamment le secteur immobilier. Il y a quand même maintenant des baisses de partout. Ça faisait longtemps, pas expert immobilier, mais qu'on n'avait pas entendu finalement un paysage de baisse des prix de l'immobilier un petit peu partout, généralisé en France, par exemple. Donc, on sait quand même l'hypersensibilité du ménage européen et français en particulier à cette thématique-là. Donc, on pourrait avoir un mouvement un petit peu plus conservateur en termes de comportement de consommation, mais on n'est pas non plus sur, voilà, il y a très peu de dettes à taux variables, il n'y a pas les ajustements comme on peut avoir aux États-Unis ou au UK. Je rappelle qu'aux États-Unis, en l'espace de 9 mois, la part qui est dédiée au remboursement des prêts hypothécaires a pris plus de 10 points en l'espace de 9 mois. Donc ça, c'est des coups de frein naturels sur la dynamique de consommation. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. On espérait un refroidissement de l'économie pour éviter finalement la surenchère monétaire. Là, on l'a. Et maintenant, bon, certains ouvrent un peu la boîte de Pandore sur la possibilité de baisser les taux. Bon, honnêtement, faut pas rêver. On n'aura pas de baisse de taux. Dans le meilleur des cas, on aura un encéphalogramme plat. Il faut s'habituer à vivre avec des niveaux de taux plus élevés. Et donc, quelque part, des choix d'investissement. Peut-être plus mûri aussi, hein, les VC américains, ils vont peut-être y réfléchir à trois fois maintenant avant de mettre des billes dans une start-up.
Bon, justement, on ne va pas parler des spécialistes américains, mais qu'est-ce que vous pouvez dire du coup à nos auditeurs là ? Parce qu'ils ont effectivement toutes ces questions qui bouillonnent sur l'antenne depuis quelques heures, depuis ce week-end et ces questions bancaires, et on le voit encore ce matin à Paris. Et puis, malgré tout, l'auditeur, il était resté sur la saison de résultats qui s'était bien passée, sur le discours de Powell, on se dit quoi que parce que les résultats d'entreprise, ils sont là. Renan, vous avez rappelé que les boîtes européennes sont plutôt pas trop endettées, enfin... Que le job a été fait. Enfin, donc, ça veut dire quoi ? On peut faire confiance aux boîtes, on peut investir aujourd'hui, on peut rester exposé à ce marché. Et il peut finalement, après une phase qu'on qualifiera peut-être dans quelques jours de respiration, repartir de l'avant ou pas ?
Moi, je pense qu'il faut vraiment choisir ses valeurs. C'est-à-dire qu'on voit d'ailleurs sur le dernier mois, on a eu des différences de performance entre thèmes, entre secteurs qui sont assez importantes. Donc nous, ce que nous disons, c'est que ces épisodes-là, hein, et encore plus l'épisode bancaire américain, c'est l'idée d'un ralentissement économique, hein, qui en plus va viser aussi à limiter les hausses de taux. On va continuer de monter les taux directeurs, mais finalement relativement peu. On voit bien qu'on est à peu près au bout du resserrement. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vaut mieux, parce que le cycle économique va être défavorable, être sur les valeurs défensives, typiquement comme la santé, qui est très très résistante aux baisses de cycle économique. Et puis puisque les taux ne remontent plus et qu'on trouve pas de croissance bénéficiaire, nous on pense qu'il faut, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis la fin de l'année dernière, s'intéresser aux valeurs de croissance. Ces valeurs de croissance, donc technologiques, énergie propre, robotique, sécurité, ce type de valeurs, a beaucoup souffert en 2022, non pas parce que les bénéfices étaient décevants, mais parce que les taux ont monté. Ce sont des valeurs qui sont très sensibles au taux. La hausse de taux étant quasiment finie, ces valeurs vont pouvoir montrer leur talent. Il y a vraiment de la croissance bénéficiaire, une croissance bénéficiaire qui en plus va être assez rare. On ne va pas la trouver dans certaines industrielles, on ne va pas la trouver dans la chimie, etc. Donc pour nous, valeurs défensives, valeurs de croissance, notamment technologique, robotique, énergie propre, ça nous paraît un bon mix pour revenir sur les actions. À court terme, ça va continuer quand même de secouer un petit peu.
Le regard de Financière Arbevel sur ce que peut faire l'épargnant aujourd'hui s'il reste volontaire en bourse.
Déjà rester proche de soi. Clairement, sujet sur les actifs américains, la valo, le niveau d'endettement et la manière dont ces entreprises-là vont se désendetter. Donc, on est mieux en Europe. C'est pour ça qu'on pousse sur plutôt la partie crédit, sur les signatures européennes, avec maintenant des taux de rendement qui sont quand même attractifs, sans pour autant aller très bas en qualité de crédit. On peut avoir du 7-8% sur des maturités à 5 ans, sur des jolis noms, y compris des industriels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on continue à apprécier et qu'on continue à pousser. Sur les petites et moyennes valeurs, sur lesquelles, là encore, le crédit était certes ouvert, mais pas autant que les grandes capitalisations, les analystes vont mettre vraiment les projecteurs sur les niveaux d'endettement, leur capacité à être résiliente, quel que soit le cycle économique, et la visibilité sur les générations de de flux de trésorerie. Donc ça, c'est quelque chose aussi, les small caps, qu'on continue à regarder et qui retrouvent un petit peu d'attrait. Et on espère que ça va continuer. Et là encore, sur les valeurs de croissance, on est assez d'accord et assez aligné là-dessus, parce que on a eu quelque part des comportements de marché assez homogènes. Et là, on a l'impression que les gens sont dans une phase où ils vont commencer à faire un petit peu plus le tri. Et un mouvement qui est peut-être en train de s'accélérer justement avec cette montée du risque spécifique autour du financement. Donc on va avoir des petites piqûres de rappel et des petits pics de volatilité, mais qui aujourd'hui nous confortent dans cette idée-là d'aiguiller plutôt les investissements vers ces thématiques.
Merci à tous les deux, Ronan Blanc, Financière Arbevel, Pictet AM et Frédéric Rollin, animaient ce regard croisé. Merci messieurs, bonne fin de journée sur le marché. Nous, on se connecte justement à ce marché dans un instant pour regarder techniquement ce qu'il faut en dire. C'est Gilles Santacreux que l'on rejoint chez Boursicoté.com. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Gilles Santacreux nous attend chez Boursicoté.com. Rebonjour Gilles. Bon, tout à l'heure, je vous titillais sur les 7000. Bon, on les a cassés.
Ah oui. Oui, c'est un petit peu ce que je vous avais dit. Hein, la zone à surveiller, c'était la zone des 7015, la zone que l'on était en train de tester au moment de cette intervention. Je vous indiquais que si on cassait, l'objectif c'était 6950. Alors 6950 résistait jusqu'il y a quelques minutes. Là, c'est en train de s'accélérer. Hein, pour vous donner une idée, en deux minutes, on est passé grossièrement de 6950 à 6910. Donc on a perdu 40 points en quelques minutes. On est en train d'accélérer. On a des volumes qui sont assez étoffés, hein, on a passé le milliard. Donc là, clairement, on est sur le scénario d'une accélération baissière. Le niveau de rupture des 6950 était un niveau qui était très lisible, donc très regardé par l'ensemble des investisseurs. Le fait que l'on ait cassé ce niveau va provoquer des réactions, c'est ce que l'on est en train de vivre, et donc on peut s'attendre à une poursuite du mouvement. Les prochains objectifs, donc liés à cette cassure, sont 6850 et 6750. Donc là, clairement, on est en train de basculer, on est en train de changer de tendance sur un horizon de temps un peu plus moyen terme. Alors, ça avait été détecté hein, juste après le match des traders. Tout à l'heure, j'ai commencé à avoir des déclenchements d'algo sur des accélérations de mouvement, notamment sur la paire de devises euro-dollar. Et on sait que quand on commence à avoir comme ça des hausses de volatilité et des déclenchements sur le Forex, en général, on voit les effets qui suivent sur les indices. Alors, le contexte, il est toujours le même. On va avoir des statistiques cet après-midi du côté des États-Unis, mais on est vraiment dans l'attente de la BCE demain pour ce qui concerne l'Europe, toujours dans un contexte très tendu, hein, lié à l'affaire SVB. Et par rapport à tout cela, on a vraiment un contexte qui peut favoriser une accélération baissière. Le fait que l'on soit dans une incertitude, le fait que les volumes montent, et ça depuis lundi, hein, puisque sur l'accélération baissière de lundi, on a eu une forte hausse des volumes, nous montre qu'on peut encore accélérer et continuer à baisser. Donc on n'est pas encore sur un mouvement trop puissant, je vais dire, mais il va falloir surveiller, car là, ça peut vraiment accélérer d'une manière assez forte. Donc, on surveillera aussi le dollar index, hein, qui est passé de 105 à 103 très rapidement. On a des actifs qui nous montrent aussi que l'inquiétude est en train de monter. On a des mouvements sur l'or notamment, on a aussi du stress sur le pétrole, on a un WTI qui redescend vers les 70, un Brent qui redescend vers les 75. Tout cela nous montre que on entre dans un contexte de marché assez tendu et que la baisse que nous constatons sur le CAC 40 actuellement, eh bien, elle n'est peut-être pas finie.
Du coup, quels sont les seuils que vous pouvez, enfin que vraiment il faut avoir à l'œil là, les tout prochains seuils, parce qu'on voit que les choses s'accélèrent. On va filer à la bourse dans un instant pour regarder un petit peu ces dernières infos, mais voilà, quels sont les seuils que vraiment vous surveillez prioritairement, Gilles ?
Alors là, depuis la cassure des 6950, on va surveiller un éventuel retour sur cette zone, voir si cette zone est validée ou confirmée en tant que résistance, c'est-à-dire si après avoir supporté les cours, eh bien elle fait plafonner les cours. Et donc dans la lignée donc de cette accélération baissière, je surveillerai 6850, 6750. 6750 étant un niveau de support majeur.
Merci Gilles. Gilles Santacreux, donc boursicoté.com. C'était promis, on file tout de suite à la bourse. Retrouver Antoine Larigauderi qui suit la séance pour BFM Business depuis ce siège d'Euronext. Bon, bah voilà, les 7000, on les oublie. Les 6009, on les menace peut-être. Il y a moins 9,80 sur Soggen, moins 9,54 sur BNP Paribas. On pourrait probablement en faire de plus. Il faut dire que Crédit Suisse a été suspendu, c'est ça ?
Absolument. Crédit Suisse qui a été suspendu. Le titre perdait plus de 10%. L'info principale, c'est que un de ses principaux actionnaires, une banque saoudienne, un de ses principaux actionnaires majeurs, a déclaré qu'il était contre une aide supplémentaire, une recapitalisation de Crédit Suisse si besoin s'en faisait sentir. Et donc, du coup, on a l'impression que la banque est un petit peu lâchée par ses principaux propriétaires. Donc, du coup, le CAC 40 est vraiment maintenant sur une accélération baissière. Moins 2,7% à 6948 points. Et du côté des valeurs qui souffrent le plus, vous en avez parlé, évidemment, le secteur bancaire, très forte baisse de la Société Générale, qui est la banque la plus atteinte, hein, moins 10% en ce moment. 22,06 €, BNP Paribas moins 8,21 à 53,13. Le Crédit Agricole moins 4,6% à 10,28 €. Il y a un petit facteur circonstanciel qui pèse aussi sur la cote, mais ça, on en parle depuis ce matin. C'est notamment la chute des prix du brut, parce qu'avec cette accélération baissière du marché, depuis le début de la semaine, le brut est en très forte correction. Le Brent de Mer du Nord est à 77,53 €. Et ça fait reculer Total, une des plus fortes pondérations de l'indice. Et le titre perd 3,7% à 54,35 €. Mais très clairement, on a un marché inquiet, très volatile, très baissier, avec beaucoup de pression, évidemment, sur le secteur bancaire et le Crédit Suisse qui inquiète au premier chef. Après SVB, dans un cas tout à fait différent, une banque tout à fait différente, on a le Crédit Suisse désormais qui inquiète. Crédit Suisse qui est au centre de la très haute finance et des placements des très grandes fortunes du monde, également très impliquées dans tout ce qui concerne la circulation du marché de l'or, étant donné que le Crédit Suisse bat ses propres lingots. Donc on a différentes sources d'inquiétude qui font dire qu'on est peut-être là au centre d'un petit risque systémique qui commence à poindre sur les marchés.
Et on vous rappelle effectivement ce beau gadin de tout le secteur bancaire et financier au sens large. Soggen, BNP Paribas, pour ne citer que les deux plus fortes baisses de la Bourse de Paris. 9,66 de moins pour Soggen, moins 8,14 pour BNP Paribas. Le CAC qui a cassé les 7000 et qui pour le moment semble vouloir s'appuyer sur les 6009. On a touché 6911 points il y a une poignée de minutes. Vous restez bien sûr à l'affût, Antoine, et on vous rappelle si ça s'accélère. Nous, on continue à vous donner un maximum de conseils. On parle tout de suite justement des matières premières.
BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion.
Et on accueille Raphaël Dubois dans Matière à réflexion. Bonjour Raphaël.
Bonjour Cédric.
Analyste financier spécialiste de ces secteurs de l'énergie pour Soggen CIB. L'impact justement de cette Silicon Valley Bank, on le voit en bourse. Mais chez vous, entre guillemets, sur ces matières premières, sur le pétrole, sur le gaz, sur l'énergie, enfin, ça a un impact, ça se ressent, vous le voyez ?
Oui, très clairement, on vient de le voir, le pétrole est en forte baisse. C'est un actif risqué, on est en mode risk-off, donc le pétrole baisse, c'est somme toute assez logique. Je noterai tout de même que depuis le début de l'année, on reste dans un range entre 75-76 $ et 87 $ pour le point haut. C'est un range relativement serré et relativement élevé, eu égard à tous les risques qui ont pesé sur le pétrole depuis le début de l'année. Je pense aux risques de récession, je pense aux réserves stratégiques que les États-Unis ont déversées sur le marché pour empêcher le pétrole d'être trop élevé. Et aujourd'hui, la faillite de cet établissement bancaire américain. Donc finalement, ça baisse et c'est normal, mais c'est pas très violent.
Il n'y a pas de panique comme sur d'autres secteurs.
Il n'y a pas de panique. Ouais. Et sur le gaz, ça baisse. Mais ça baisse depuis le début de l'année et on note pas d'accélération avec ce qui est en train de se passer. On était à 65 € du mégawattheure en début d'année. On est un petit peu en dessous des 50 € du mégawattheure sur les derniers cours. On était à 150 € début décembre 2022. Donc ça baisse, mais ça s'explique assez facilement. Mmh. On a une demande complètement atone. En Europe, la demande a diminué de 13% l'an dernier. Et si on prend juste le pan industriel qui consomme le gaz, ça a diminué de 25%, ce qui est absolument colossal. Et dans le même temps, on a des stocks pléthoriques. L'année dernière, on a joué à se faire peur avec la guerre en Ukraine. Mmh. Aujourd'hui, les stocks sont deux fois plus élevés qu'à même époque l'an dernier, et même 50% plus élevé qu'en 2021, si on veut prendre une année de comparaison un peu moins perturbée, on va dire.
Voilà donc pour ce point actu, on va dire. Bon, dans l'actualité de ce monde des matières premières, parce que c'est aussi un monde qui a ses propres rendez-vous, il y a eu une grande messe des pétroliers la semaine dernière à Houston. Qu'est-ce qu'on retient? Quelles ont été les idées maîtresses? Quels ont été les messages éventuels qui ont été distillés là-bas?
Alors, il y a différents sons de cloche, on va dire, mais celui qui a été le plus martelé de la part des grands pétroliers américains, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à un rebond de la production américaine. Pour rappel, cette production américaine, elle est actuellement de 12 millions de barils par jour. Au plus haut, au pic, avant le Covid, on était à 13 millions de barils par jour. Et là, quand on écoute parler les pétroliers, on se dirige plutôt vers une petite hausse de 200-250 000 barils par jour cette année. Donc on est très très loin des années stratosphériques à 1 million de barils par jour de croissance annuelle. Et c'est soit parce qu'il y a de l'inflation dans les services parapétroliers, mmh. il y a plus de 10% d'inflation, et également il n'y a peut-être pas les meilleures ressources disponibles pour pouvoir vraiment lancer une nouvelle période de croissance de la production. Donc quoi qu'il en soit, et c'est peut-être un peu perturbant, les États-Unis ont quelque peu perdu le rôle de gendarme du pétrole. Aujourd'hui, les pays qui pourront éventuellement rajouter de la production, c'est de nouveau les pays de l'OPEP, donc Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Koweït. Et c'est plutôt positif pour le prix du baril, même si aujourd'hui on est dans un environnement un peu perturbé.
Alors, ce point sur les réserves, etc., met peut-être aussi en lumière une décision qui, enfin, en tout cas pour l'observateur assez modique que je suis, a été assez particulière. Décision de l'administration Biden, oui, qui a autorisé un projet pétrolier en Alaska, dans une zone qui est hyper contestée. Qu'est-ce que ça dit, ça?
Alors justement, je crois qu'on a vu encore une fois le pragmatisme de l'administration américaine.
Même Donald Trump, je crois, s'est fendu d'un message sur les réseaux en moquant ce choix de l'administration Biden. C'était quand même le comble.
Il faut dire que ce projet de, donc Willow, 180 000 barils par jour quand il entrera en production, il avait été d'abord permis par l'administration Trump en 2018. Puis le permis a été retiré en 2021 parce qu'on estimait que les normes environnementales n'étaient pas suffisamment contrôlées. Et là, l'administration Biden vient de donner le tampon final qui va permettre à la société ConocoPhillips de dépenser plus de 7 milliards de dollars pour mettre en branle ce projet. Et je pense que c'est un message pour les pétroliers américains. Voilà, on va vous laisser forêt, parce que de toute façon, on a besoin de ces énergies fossiles, mais dans le même temps, il va falloir que vous accélériez sur la transition énergétique. Et d'ailleurs, lors de cette semaine à Houston, la secrétaire d'État à l'énergie, Jennifer Granholm, a un peu tapé du poing sur la table en disant, regardez, on a passé l'Inflation Reduction Act, l'IRA, qui va vous permettre de plus facilement financer cette transition énergétique, aller en profiter. Et elle a dressé un peu des lauriers sur la tête de Total Energy, et j'ai trouvé ça assez amusant que la secrétaire d'État à l'énergie américaine dise du bien de Total Energy en disant regardez ce qu'ils font, eux ils investissent dans la transition énergétique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de messages qui sont envoyés en ce moment vers les pétroliers américains. Prenez exemple sur les pétroliers européens qui eux investissent dans la transition énergétique. Venez investir aux États-Unis parce qu'on a passé cette IRA qui va vous aider d'un point de vue retour sur capitaux employés. Et même, pourquoi pas, venez vous faire coter aux États-Unis parce qu'il y a un petit peu plus d'amour pour le secteur pétrolier là-bas.
Bon, ben voilà, vous avez servi de caisse de résonance un peu à tous ces messages. Merci beaucoup, Raphaël Dubois, donc, pour Société Générale CIB, spécialiste de ce secteur de l'énergie. Vous nous accompagnez régulièrement dans Matière à réflexion et on vous en remercie. Le pétrole, effectivement, ce matin à 77,56 pour le baril de Brent de la mer du Nord. Le CAC, lui, fait un peu grise mine. On a cassé les 7000. 6951 points pour le moment. C'est une baisse de 2,66% avec notamment un fort impact du secteur financier après la suspension de cotation de Crédit Suisse qui affichait une baisse d'un peu plus de 15%.
BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection.
Et on gère la sélection de BFM Patrimoine comme chaque mercredi avec deux gérants, l'une en plateau, Amandine Gérard. Bonjour Amandine.
Bonjour Cédric, bonjour
François. Financière de l'Arc et François Chollet qui est en ligne depuis Montségur Finance. Bonjour François.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. D'abord, votre regard sur ce marché-là, sur cette espèce de vent de, je ne sais pas si on peut dire de panique, mais en tout cas, ce coup de tabac sur le secteur financier. Il y a un problème bancaire, il y a quoi faire. Amandine, qu'est-ce qu'on se dit en voyant ça? Parce qu'hier, on en parlait déjà, mais là, ce matin, on en remet un petit coup, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on se disait la semaine dernière, Cédric? Ouais. Est-ce que c'est l'année des actions européennes?
Et tous pas les des trois, bancaires, en tout cas.
Sur ce plateau, ouais. on se disait que... Oui, mais bon. Chaque année, on dit ça depuis 5 ans. Alors, il y a deux grosses tendances dans le marché qui se dessinent depuis 3 jours et depuis la faillite de Silicon Valley Bank. C'est les gérants qui disent c'est une opportunité d'achat parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de liquidités dans les portefeuilles. Et la seconde partie des gérants, donc dont je fais partie, où on se dit ok, ce n'est pas systémique. En revanche, l'effet contagion par rapport à la confiance du consommateur et du client. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 banques aux États-Unis, majoritairement régionales. Qu'est-ce que vous vous dites en tant que consommateur américain si vous voyez une, deux, trois, comme c'est le cas, banque régionale faire faillite? On a un très fort risque de problématique de liquidité interbancaire. Et souvenons-nous que c'est ce qui avait entraîné en partie la crise en 2008.
Oui, parce qu'il y a un certain nombre de clients qui aujourd'hui sont en train de sortir leurs avoirs de banques, entre guillemets, similaires ou proches de SVB et des deux autres qui ont également été fermés et qui viennent chez les majors, les grands noms. Et du coup, ça pose un problème de concentration aussi. Enfin, voilà.
Ça, c'est le premier point. Et concernant Crédit Suisse, ma réflexion depuis lundi est la suivante. C'est qu'on était là, chez Silicon Valley Bank, justement, pas du tout sur un modèle de créance douteuse ou d'insolvabilité, mais sur un modèle qui est similaire à celui de Crédit Suisse, c'est-à-dire une clientèle aisée, avec beaucoup de dépôts et une mauvaise gestion d'actifs passifs. Et personne ne parlait de Crédit Suisse dans ce contexte. Eh bien, aujourd'hui, on voit que très certainement que certains clients de chez Crédit Suisse ont dû retirer leurs avoirs depuis plusieurs jours. Et c'est pour ça que l'Arabie Saoudite commence à faire entendre sa voix si besoin de recapitalisation il y a.
François, votre regard chez Montségur sur ce coup de tabac, on rappelle, on a quasiment 10% de baisse sur Soggen, moins 9 sur BNPP.
Oui, c'est vrai que ça tape assez fort. Alors, aux États-Unis, on a eu effectivement 4 faillites en quelques jours qui ont précipité le week-end, je pense, les autorités à des actions massives et significatives pour ramener la liquidité et la confiance. On a aujourd'hui un vrai sujet en Europe. Le sujet, effectivement, vous le citez, c'est le Crédit Suisse. Crédit Suisse qui a retardé la publication de ses comptes, dont on voit tous les jours les CDS, vous savez, les crédits défaut de swap, pour rassurer la dette de Crédit Suisse montée à des niveaux historiques et records, c'est pas de nature à rassurer les marchés européens sur la solvabilité du secteur bancaire. Or, Crédit Suisse, en termes de taille de bilan, c'est quelque chose de très significatif. Et donc, on a un vrai sujet d'inquiétude sur le secteur bancaire et ça déteint, y compris sur les autres acteurs, parce que, évidemment, si les bilans bancaires en Europe sont solides, personne n'est en capacité de résister à une défaut ou à une faillite d'une banque de cette taille-là. Donc c'est simplement une vague de panique aujourd'hui que nous avons sur le secteur bancaire. Alors, il avait bien profité depuis quelques mois d'un rebond et d'une considération du profit qui était absolument magnifique au cours de 2022. Les fondamentaux ne sont pas remis en cause, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse aux inquiétudes qui concernent le Crédit Suisse, et je pense que c'est un des éléments majeurs qui conduit à ce que les titres du secteur bancaire soient vendus de manière totalement indiscriminée.
Voilà donc pour le cadre dans lequel évolue ce matin le marché, et c'est vrai que c'est pas facile. On rappelle hein, que la sélection est exposée finalement, puisqu'on est actionnaire de Société Générale, donc forcément.
Alors, on est très peu exposé, Cédric, si je peux me permettre. On a une ligne effectivement.
Oui, non mais je veux dire,
au travers de Société Générale.
On a quand même Soggen qui, pour le moment, a le bon élan du CAC.
Tout à fait. N'oubliez pas que le CAC 40 est bien plus financier que le poids que nous avons dans le portefeuille, donc il a fort à parier que l'avance que nous avons constituée depuis le début de l'année sur la performance de gestion vis-à-vis du CAC 40 devrait être un petit peu revue à la hausse suite à cette séance.
Bon, donc toujours pas de panique donc sur Soggen. Effectivement, on va.
Non, je pense surtout qu'en relatif, hein, si on regarde notre sélection par rapport à celle du CAC, donc comme vous le savez, on a 15% de liquidité et surtout on a un poids de Total qui est limité, qui pour le coup est très important au sein de l'indice. Et on l'a mentionné avec votre interlocuteur précédent. Le pétrole, connaissant une très forte chute, Total connaît une forte correction aujourd'hui aussi. Donc là encore pour nous, de la sous-pondération. On a plusieurs valeurs de croissance aussi qui se tiennent relativement bien dans ce contexte. Je pense à Pernod, L'Oréal, puisque bien entendu, on a des arbitrages des acteurs de marché vers des valeurs qu'on appelle défensives.
Raphaël Dubois, hein, qui était avec nous, vous pouvez réentendre bien évidemment en replay depuis la Société Générale CIB sur ces questions de pétrole et de matières premières. Voilà donc le tout et effectivement la sélection qui pour le moment se comporte pas mal parce qu'hier soir on est en hausse de 11,5% versus 10,4% pour l'indice CAC. Bon, vous n'avez pas fait cocorico en arrivant dans le plateau et pourtant vous avez gagné, Amandine, puisque dans la réunion de gestion qui a précédé cette émission, eh bien, on s'est intéressé au secteur de la santé et vous avez recueilli les suffrages de vos petits camarades, Amandine.
Oui.
Donc on va fêter une entrée demain matin, toujours cours d'ouverture, hein, sur Sanofi, c'est ça ?
Oui, alors là aussi, on avait entamé les discussions la semaine dernière, on l'avait précisé. Le secteur de la santé est le secteur défensif par excellence. Pourquoi ? Une très forte visibilité de la génération de cash, des entreprises qui sont matures, mais avec, en plus, un profil de croissance relativement régulier et beaucoup d'innovations sur ces trois dernières années. Et ce secteur-là, logiquement, sous-performé depuis 6 mois, puisque avec la crise sanitaire, il avait été très fortement acheté par les investisseurs. Donc là, on avait assisté à une rotation sectorielle. Mais effectivement, j'insistais sur le fait qu'on en est zéro en portefeuille, ce qui me paraissait tout de même un peu light, entre guillemets, eu égard au niveau de marché qu'on atteignait, puisque c'est encore une fois le secteur défensif.
François, à l'aise et, avec cette idée d'avoir une part de santé finalement dans notre sélection BFM Patrimoine ?
Oui, alors Sanofi, c'est pas la valeur la plus sexy du secteur, il n'empêche en termes.
On va y revenir après, parce qu'il y avait discussion, ce serait intéressant pour aussi faire un peu de pédagogie sur le choix de titre, de voir. Alors allez-y, je vous laisse terminer sur Sanofi.
Non, je disais simplement, c'est pas une des valeurs les plus effectivement sexy dans le sens où le portefeuille a plutôt fait défaut par rapport aux anticipations de marché. Et je crois qu'elle est restée très en retard des multiples du secteur par rapport à ce qu'on a pu connaître depuis 2 ans avec un ratio de valorisation à 13 qu'on ait résultats qui est quand même inférieur à celui du marché. C'est une valeur très défensive, avec une distribution de dividendes, avec beaucoup de visibilité. Clairement, c'est pas un mauvais choix que de repondérer notre portefeuille sur ce secteur-là, qui est quand même une composante importante de l'indice. Et pour le coup, les mauvaises années de Sanofi, il y a plutôt le sentiment qu'elles sont derrière nous.
Bon. Je disais, c'est vrai que faisons un peu de pédagogie. Vous aviez proposé entre guillemets 2 valeurs de santé, bioMérieux et Sanofi, et tout le monde a dit oui pour les deux, mais tout le temps avec une petite note d'avance pour Sanofi. C'était toujours Sanofi oui, et puis je m'opposerais pas à bioMérieux si ça faisait le consensus. Mais voilà, tout le monde a un peu répondu sur cette tonalité-là. Comment on fait pour discriminer comme ça 2 valeurs qui finalement ont les faveurs des gérants. Enfin voilà, quand on fait notre sélection de titres.
Alors c'est plus large que ça. Donc, il faut préciser aux auditeurs qu'à la Financière de l'Arc, on gère un fonds spécialisés sur la santé et que, en fait, quand on parle santé, on parle beaucoup de valeurs soit anglaises, soit américaines. Dans notre sélection, on le rappelle, on essaye aussi de minorer les frais de transaction des auditeurs. Donc, on va plutôt se positionner sur des valeurs qui sont listées, cotées sur Euronext, et donc majoritairement françaises. Voilà pourquoi j'ai proposé Sanofi et Biomérieux. D'un côté, on a, François le précisait, pas la valeur la plus sexy, avec une très grosse désaffection justement des investisseurs anglo-saxons parce que la stratégie a beaucoup déçu à plusieurs reprises. Et de l'autre côté, on a quand même une belle société familiale française où là on peut faire cocorico puisque Biomérieux est une vraie réussite, mais majoritairement présente dans le diagnostic. Donc là aussi, comme Eurofins, qui avait eu les faveurs des investisseurs depuis 2 ans et de très fortes cessions. Pourquoi on a préféré Sanofi à Biomérieux? Je pense en partie parce que Biomérieux est très identifié sur le diagnostic. Sanofi essaye de relancer sa stratégie. Ils ont acquis une société dans le secteur du diabète. Alors certes, un peu cher, pour un montant d'un peu moins de 3 milliards de dollars cette semaine, aux États-Unis justement, une biotech. Mais on peut avoir des relais de croissance et la quantité de liquidité qui est présente dans le bilan permet à Sanofi d'aller chercher des relais de croissance. Une présence indicielle, un très fort dividende, hein, puisqu'on est à hauteur de 6%, et une relative stabilité en termes de volatilité dans les cours. Et donc, avec ce qui se passe là depuis quelques jours, c'est rassurant pour la sélection.
Bon, comme on a mis aussi en lumière Biomérieux, même si c'est Sanofi qui a remporté le cocotier, j'allais dire. François, un petit mot quand même aussi de cet arbitre, enfin de ce choix et de Biomérieux.
Bon, écoutez, c'est assez basiquement la capitalisation boursière de Sanofi, c'est un peu plus de 110 milliards d'euros. Biomérieux, on parle d'une entreprise à 10 ou 11 milliards d'euros, donc on n'est pas du tout dans la même catégorie par rapport à, je dirais, la présentation de ce portefeuille et puis la capacité des auditeurs et téléspectateurs à le suivre. C'est quand même assez facile d'aller proposer des entreprises qui sont parmi les plus gros poids du secteur en France et un peu en Europe aussi.
Donc, question de capi plus que...
Oui, après, on a dans un cas une valeur moyenne de grande qualité. Effectivement, comme le soulignait Amandine, la nécessité de trouver des relais, hein, tout ce qui a été, on va dire, boosté par la période du Covid. Là où Sanofi, on a peut-être un peu plus de visibilité sur la suite, et notamment les opérations d'acquisition que le groupe est capable de mener. Il en a mené beaucoup depuis 4 ou 5 ans. Il y en a encore une qui est en cours, avec, je dirais, une capacité à rebondir. Là, encore une fois, il avait raté certains... 4.
On rappellera pas le Covid.
Ça a été largement sanctionné par le marché. Aujourd'hui, ils sont en train de montrer que, sur certains sujets, notamment sur la vaccination, ils ont toujours leur place auprès des Européens.
Merci beaucoup à tous les deux, donc Amandine Gérard, financière de l'Arc, et Montségur Finance, et François Chollet. On rappelle donc le choix du jour, l'acquisition de Sanofi, qui sera enregistrée dans la sélection demain matin au cours d'ouverture. Très bonne fin de journée à tous les deux. Dans un instant, c'est 90 minutes business, l'heure de retrouver donc Sandra Gondouin.
Bonjour
Sandra, au sommaire.
Je vais garder Amandine Gérard et François Chollet avec moi, hein, parce que là c'est pas possible, il faut qu'on commente un petit peu ce qui s'est
passé
sur les marchés ce midi. Ça bouge, ça dévisse, surtout inquiétude autour du Crédit Suisse. On va analyser la situation dans un instant aussi avec Antoine Larry-Gaudry qui est à Euronext en direct. On parlera aussi de la réforme des retraites. On fera un point sur la saison de sport d'hiver aussi avec notre invité. Puis on parlera de fast fashion. Ce sera dans la deuxième demi-heure avec Jean-Marc et avec Charles Sterling. Ce programme très chargé, encore une fois, Cédric.
C'est à suivre et je vous laisse donc mes invités. Vous verrez, ils sont très sympas. Le CAC effectivement en forte baisse, moins 3,66% maintenant, après avoir cassé les 7000, ce sont les 6009 qui ont lâché, 6883 points, et un gros décalage des financières avec BNPP et Soggen notamment qui perdent quasiment 10% chacune. Nous, on se donne rendez-vous demain matin bien évidemment à 10h.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.